Voilà, bonsoir à tous. On va commencer en lisant un chapitre de la parole. C'est un passage qui donne un aperçu tout particulier sur le combat spirituel parce qu'on va y voir un combat parmi les personnages célestes, je vais dire personnages parce qu'il y a Dieu qui est impliqué et Dieu n'est pas une créature. Et puis on voit tout de suite après qu'est-ce qui se passe sur la terre en conséquence à ce qui s'est passé dans les cieux. Alors le passage que je vous propose de lire c'est Job 1. J'avais prévu de lire Job 1 et 2, mais le chapitre 2 apporte pas nécessairement beaucoup de choses nouvelles, il apporte simplement plus d'exemples. Alors on va lire Job 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, et 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et il avait un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus grand que tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient, faisaient un festin chacun dans sa maison à son jour. Et ils envoyaient appeler leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Ils se levaient de bonne heure le matin et offraient les holocaustes selon leur nombre à tous, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» Job faisait toujours ainsi. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré, mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est en ta main, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Et un jour, il arriva que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et un messager vint à Job et dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux, et ceux de Sheba sont tombés sur eux et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé sur le ciel et a brûlé les brebis et les jeunes hommes et les a consumés, et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens ont formé trois bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. » Et voici, un grand vent est venu au-delà du désert et a donné contre les quatre coins de la maison. Et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Et Job se leva et déchira sa robe et rasa sa tête et se jeta à terre et se prosterna. Et il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien à Dieu qui fût inconvenable. Voilà, donc on a vu, on a une présentation, dans le premier paragraphe, présentation de Job et de sa perfection, puis de toutes ses richesses qui sont considérables. Le paragraphe suivant, les versets 6 à 12, il y a une attaque de Satan contre Dieu et contre Job. Il attaque Job parce qu'il désire s'en prendre à toutes ses possessions et à lui-même, mais au fond, il attaque aussi Dieu, parce que finalement, ce qu'il sous-entend par ses paroles, c'est que Dieu, finalement, c'est qu'un commerçant comme un autre, il donne des biens à Job, et puis Job en échange d'un or, et puis comme on est dans un marché, s'il retire ses biens, Job va cesser d'honorer Dieu, donc finalement, Dieu, il n'y a pas tellement de gloire à être honoré par Job comme Job honore Dieu. Et puis alors Dieu donne une possibilité d'action à Satan. Il y est un peu obligé parce que s'il avait dit « je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu ne touches pas à Job », il aurait finalement quelque part donné raison à Satan. Et donc, Dieu, pour se justifier, pour montrer que Job n'est pas simplement, n'honore pas seulement Dieu à cause de ce qu'il a reçu, Dieu donne cette liberté d'action à Satan, et Satan va exploiter cette liberté au bout de ce qu'il peut aller. Il va jusqu'à la limite de ce que Dieu lui a autorisé, et on peut voir que absolument tout ce qui a été présenté dans les richesses de Job, dans le premier paragraphe, est violemment retiré par Satan dans les versets 13 à 21. Et au verset 22, la perfection de Job est confirmée. C'est assez impressionnant quand on voit toute la violence de Satan et la haine finalement avec laquelle il va agir contre Job, la soumission de Job envers Dieu. Et puis ça reprend au chapitre 2, en quelques mots. Donc Satan, finalement, il banalise son échec. Il dit « Oui, mais bon, c'est normal. Tant qu'on touche qu'à ses biens, c'est normal qu'on s'en sorte. » Du moment que sa vie est préservée, et puis là... Dieu autorise Satan à s'attaquer à Job, mais là encore, il le limite, il dit « tu n'atteindras pas sa vie ». Job est frappé d'un ulcère malin. Il semblerait que ce soit une maladie de peau qui est plus ou moins connue. C'est une maladie qui donne énormément de souffrance. Et puis, après, il y a la femme de Job qui lui dit « pourquoi est-ce que tu demeures parfait, maudit Dieu, et meurs ?» Donc, finalement, elle... Sous l'influence de Satan, probablement aussi elle l'incite à faire ce que Satan avait comme pour but, d'atteindre le but de Satan. Et encore, Job reste ferme dans sa foi, dans sa confiance en Dieu. Et puis ensuite, il vient le passage où il y a les trois amis de Job qui arrivent pour le consoler. Et puis, au bout de 7 jours où ils se tiennent ensemble sans rien dire, Job maudit le jour de sa naissance. Donc, Job, on peut presque dire qu'il a manqué, mais il n'a pas fait ce que Satan avait prédit qu'il avait fait. Il a regretté le jour de sa naissance, mais il n'a jamais parlé contre Dieu. Donc voilà un peu pour l'introduction. Voilà, donc on verra en premier l'action de Satan contre les hommes, ensuite la situation du croyant face à Satan, quelles sont les ressources du croyant face à Satan, et on essaiera de tirer quelques conclusions. Donc, l'action de Satan contre les hommes. Donc, le premier point qu'on voit, c'est que Satan, il accuse les hommes. Il porte sans arrêt des accusations contre eux. Et puis, le terme Satan, en hébreu, ce n'est pas un nom, mais c'est finalement un mot qui signifie l'adversaire. Et puis, dans le travail de traduction, c'est selon le contexte où on va voir si ça parle de Satan en tant que la personne du diable ou en tant qu'un adversaire. Ça peut être un adversaire personnel dans un conflit de personnes ou un adversaire sur le plan juridique, soit un accusateur. Et ça, on peut voir dans Zacharie 3, verset 1. Et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Alors, dans un procès, à l'époque, il semble que justement la partie accusatrice se tenait à droite de l'accusé. Et on voit que c'est la position que Satan prend ici dans Zacharie, et puis aussi celle qu'il a prise dans le chapitre 1 du livre de Job. Il accuse Job. Ensuite, Satan incite à la rébellion contre Dieu. On voit la parole de la femme de Job au chapitre 2, verset 9. Elle dit « Maudit Dieu et meurt ». Et puis, d'autres exemples de cette incitation à la rébellion, peut-être encore plus flagrant, c'est la chute en Genèse 3, où finalement tout le discours de Satan va inciter l'homme et la femme à se rebeller contre la parole de Dieu. Il y a aussi dans la tentation de Jésus dans le désert, où il cherche à tout prix à ce que Jésus quitte sa soumission à Dieu, son obéissance à la parole, et à l'entraîner à pécher. Un troisième point, Satan peut infliger la souffrance, la maladie ou même exciter la persécution. La souffrance et la maladie, dans le livre de Job, c'est assez clair, on voit son action directe là-dedans. Par rapport à la persécution, on peut voir aussi dans la suite du livre de Job, avec tous les discours des amis, il y a une forme de persécution où ils attaquent Job, ils lui prêtent des mauvaises intentions, ils lui prêtent un mauvais comportement de manière injustifiée. Et c'est dommage de voir que ces personnes qui étaient venues à la base pour consoler Job lui sortent des persécuteurs. Et j'avais lu un témoignage d'un chrétien chinois qui a beaucoup été persécuté, qui a été torturé. Et puis, il a finalement pu partir en Allemagne. Et puis, quand il a raconté son témoignage en Allemagne, des chrétiens lui ont dit « Mais t'inventes cette histoire, c'est pas possible. » Et il disait « Mais c'était la pire des persécutions. Tout ce qu'on reçoit des personnes qui sont opposées à Dieu, même au niveau souffrance physique, c'était rien comparé à ces accusations de mensonges qui venaient de la part de chrétiens. » Alors, ça, c'est quelque chose qui va loin, mais je pense qu'on doit aussi être attentif entre nous quand il y a un frère ou une sœur qui souffre. Pas donner des paroles blessantes ou accusatrices qui finalement, ça s'apparenterait à une forme de persécution et qui finalement font aussi l'œuvre du diable plutôt qu'une œuvre d'encouragement qui serait l'œuvre du Seigneur. Satan insinue le doute au sujet de Dieu, de sa parole et de sa bonté. Alors ça, c'est exactement ce qu'on voit en Genèse 3. Satan déforme les paroles de Dieu, il les tord, il cite mal, de manière incomplète, et puis finalement toujours dans le but de discréditer Dieu, de détourner les hommes de Dieu. Et puis finalement, Satan tente les hommes et il est appelé le tentateur. Et on voit ça notamment dans 1 Thessaloniciens 3, verset 5. C'est pourquoi moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé afin de connaître ce qui était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail fût rendu vain. L'œuvre de tentation de Satan, elle a toujours pour but de détruire l'œuvre de Dieu. Là, c'était dans l'exemple, l'église de Thessalonique. Dans la Genèse, lors de la chute, l'œuvre de la création a été tout de suite souillée, la relation avec Dieu a été coupée avec les hommes. La relation de Dieu avec les hommes a été cassée. C'est toujours dans ce but-là que Satan œuvre. En faisant cette liste, j'ai été frappé parce qu'on venait de lire un livre sur l'amour. Et puis, on avait notamment pas mal vu 1 Corinthiens 13. Et finalement, l'œuvre de Satan, elle est en complète opposition avec ce que nous propose 1 Corinthiens 13 sur l'amour. On voit que Satan accuse et l'amour n'impute pas le mal. Satan incite à la rébellion. L'amour n'est pas envieux. Satan inflige la souffrance. L'amour est plein de bonté. Il insinue le doute au sujet de Dieu alors que l'amour se réjouit avec la vérité. Et puis Satan tente et l'amour ne fait rien de malhonnête. Finalement, ce n'est pas très étonnant que Satan soit pareillement en opposition avec l'amour tel qu'il est décrit. Mais ça peut encore plus nous convaincre et nous frapper de l'opposition complète et totale qu'il y a entre Satan et Dieu, entre l'œuvre de Satan et l'œuvre de Dieu. On va voir maintenant la situation du croyant face à Satan. Le croyant, il a pour lui, premièrement, que Dieu est maître de tout, et puis Christ est vainqueur. Dans les deux premiers chapitres de Job, l'autorité de Dieu sur Satan se montre à trois reprises et de trois manières différentes et à deux reprises. Deux fois, c'est Satan qui se présente devant Dieu comme finalement un sujet viendrait devant un maître. Alors c'est un sujet qui est en opposition avec le maître, mais ça montre bien qui est le souverain. Ensuite, deux fois, c'est Dieu qui va en premier interroger Satan en lui demandant « D'où viens-tu ?» C'est Dieu qui ouvre les débats, si on peut dire. Et deux fois, Dieu donne une limite d'action à Satan et Satan ne peut pas aller au-delà de cette limite. Il va l'utiliser au maximum, mais il est obligé de s'arrêter là où Dieu le stoppe. Dans les évangiles aussi, l'autorité de Jésus-Christ sur les démons est évidente. Il y a notamment dans l'épisode dans le pays des Gadaréniens où il y a les démons légions qui demandent à Jésus de pouvoir aller dans le troupeau de porcs. Et c'est dit que les démons le prient instamment. Donc, face à Jésus, les démons n'ont finalement que le choix de se soumettre à sa parole. Jésus, Christ, a vaincu Satan à la croix. Et on lit ça notamment dans Hébreux 2, verset 14. Donc, puisque les enfants ont eu part au sein et à la chair, lui aussi, donc Jésus-Christ, semblablement y a participé, afin que par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ a vaincu Satan à la croix, et contrairement au proverbe, on peut dire qu'il a gagné la guerre, mais par contre, il reste des batailles à livrer pour nous. Et puis, ensuite dans Colossiens 2, verset 15, « Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles à la croix. » On la croit. Donc les principautés et les autorités sont des anges de différentes sortes. Dans le Nouveau Testament, il est parlé ailleurs de trône, de domination ou de dignité. Alors avec sa victoire sur Satan, Christ a aussi remporté la victoire sur tous les anges de Satan, tous ces anges déchus. Et puis pour dire un mot du triomphe, donc Christ a triomphé d'elle, on la croit, le triomphe, au temps de l'apôtre, c'était un défilé qui avait lieu dans Rome. C'était le Sénat qui l'attribuait à un général pour une victoire à caractère particulier. Donc pour qu'un général puisse bénéficier d'un triomphe, il fallait qu'il y ait un grand butin qui soit rapporté de la guerre. Il fallait que le territoire de l'Empire soit augmenté durant cette guerre. Il fallait que l'armée soit de retour à Rome pour démontrer que la paix avait été établie dans les provinces conquises. Et puis, on pouvait triompher seulement d'hommes libres. Et il y a notamment il y a une révolte d'esclaves de Spartacus en 70 avant Jésus-Christ. Et c'est le général Crassus qui a finalement maté cette révolte, mais après une guerre relativement conséquente. Et il n'a pas eu droit à un triomphe dans Rome parce que c'était pas d'hommes libres. Il n'avait pas vaincu des hommes libres, il avait vaincu des esclaves révoltés. Il semble que ça l'avait passablement frustré, mais pour montrer qu'à cette époque-là, quand on parlait d'un triomphe, c'était la plus haute distinction, la plus haute gloire qu'on pouvait attribuer après un combat à un général. Et puis, par la suite, il n'y a plus que les empereurs qui ont bénéficié de pouvoir avoir un triomphe à leur nom. Donc, quand Paul parle de ça, eh ben, il fait allusion à la plus haute victoire que quelqu'un pouvait remporter. Et c'est ça que Christ a remporté à la croix, c'est une victoire sans faille. Ensuite, le croyant est sous la main de Dieu qui reste maître de la situation. Même si c'est Satan qui agit, on le voit dans Job, le croyant accepte l'épreuve comme venant de la main de Dieu. Et ça, c'est probablement quelque chose une des choses les plus difficiles, c'est d'accepter que Dieu est au contrôle de notre souffrance. Satan ne peut agir sans le consentement de Dieu, mais Dieu limite son action. Et là, on peut lire encore un verset qui montre cela, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Et on voit là la sollicitude de Dieu pour ses enfants, où il limite l'épreuve, il limite l'action de Satan pour que ses enfants ne soient pas trop tentés, ne souffrent pas trop. Le croyant est en Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, verset 13, on peut lire « Le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, dans ce combat spirituel où Dieu sauve des âmes, elle les ravit au royaume de Satan, ensuite elles ne sont pas laissées pour elles-mêmes, elles sont transportées dans le royaume de Christ. Et puis, Daniel a cité dans sa prière ce qu'on cite souvent comme le titre de l'Épître aux Éphésiens, le croyant est assis en Christ. Et c'est frappant si on lit la première partie du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, on a une liste qui est assez impressionnante, si on la met tout à la suite. On voit premièrement que le croyant est béni en Christ, il est élu en lui, il est saint et irréprochable devant Christ, il est adopté par Jésus-Christ pour Dieu, il est rendu agréable dans le bien-aimé. Ensuite, c'est dit que tous sont réunis en un dans le Christ, et puis ils sont faits héritiers en Christ. C'est la position du croyant une fois qu'il a été sauvé. On a encore. Et puis, un dernier, au verset 12, nous avons espéré à l'avance en Christ. On ne pourrait pas rêver d'une unité plus complète et plus belle. Et puis, avec une position pareille qui nous est accordée, et puis l'ennemi Satan qui est vaincu, on peut dire que les croyants ont tout en main pour attaquer ce combat spirituel. On lit en Romains 8, les versets 1 et 33 à 34. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui est mort. Mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Et cependant, Satan continue d'accuser les élus de Dieu. Pourquoi cela ? Il le fait alors qu'il n'en a aucun droit. Il a été vaincu. Christ est vainqueur. Christ nous justifie. Pourquoi est-ce que Satan continue de nous accuser ? Et j'ai imaginé, c'est peut-être un peu comme si vous avez un procureur. Donc, le procureur, c'est celui qui est chargé de l'accusation, du dossier d'accusation. Un procureur malhonnête qui aurait été destitué. Et puis, il ne peut plus rentrer dans la salle de tribunal, il n'a plus aucune puissance, aucune possibilité d'agir, mais c'est comme s'il suivait les gens dans la rue en continuant de les accuser. Et ça n'a aucune valeur légale, aucune valeur juridique, mais cependant, si on l'écoute, ça peut déstabiliser, ça peut décourager. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à ce procureur malhonnête ? Ben, il faut résister, justement. Et puis, on va voir pour ça le point suivant. Les ressources du croyant face à Satan. Et là, je vous invite à lire le chapitre 6, dans le chapitre 6 des Éphésiens, les versets 10 à 19. Quand on a prié avant la réunion, Jean-Jacques a mentionné des passages de la Bible qu'on n'avait peut-être pas beaucoup l'habitude de lire. Puis ça, c'est quand même un passage qu'on lit régulièrement, alors j'espère qu'il n'est pas trop déçu. Éphésiens 6, versets 10 à 19. « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Prions par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillons à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Alors, comme on l'a déjà dit, Christ a gagné la guerre, mais il reste des batailles à livrer pour les croyants. Alors, pour livrer bataille, quoi de mieux de s'équiper de l'armure qui a été prévue exprès pour cette bataille ? Mais avant de passer les pièces de cette armure en vue, il y a quelques précisions qui sont nécessaires. Le premier, c'est le but de cette bataille. Le but, c'est de résister et de tenir ferme. Il n'y a pas de fuite ou de retraite organisée qui sont prévues. J'avais lu il y a déjà quelques temps, c'était dans un article sur la guerre de sécession, durant une bataille assez qui a finalement eu une importance assez importante dans l'issue de la guerre, il y a un bataillon de soldats qui tenait une position qui était, semble-t-il, qui aurait été assez aisé à tenir, mais ils n'ont pas eu une instruction claire s'il fallait tenir à tout prix, et puis certains se sont repliés, puis finalement ils se sont tous repliés, puis ça a fait pencher la bataille en leur défaveur. Et puis, ce n'est pas ce qu'on a dans notre bataille spirituelle. L'instruction, c'est de résister et de tenir ferme. Je n'ai pas compté combien de fois ces deux expressions reviennent dans ce passage, mais c'est vraiment un leitmotiv. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'armure, elle est complète. Chaque partie est importante. Et puis, par contre, il ne faut pas négliger une seule. Ce serait bête de partir avec une bonne épée, un bon bouclier au combat, mais en oubliant le casque. Et puis, on verra par la suite que chaque pièce de l'armure a un rôle particulier pour la défense et la survie du croyant. Un troisième point, c'est que Paul reprécise le combat. Il dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres et contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Donc à ce niveau-là, c'est clair que ce n'est pas des armes traditionnelles dont on a besoin, ce n'est pas l'épée de Goliath et sa lance, ce n'est pas aujourd'hui des armes à feu ou je ne sais quoi, c'est les armes spirituelles qui sont prévues pour ce combat. Et puis, en préparant ça, j'ai pensé au pasteur Bouya qui est régulièrement inquiété, que ce soit à Tombouctou particulièrement, mais aussi à Bamako, par des gens qui, eux, luttent avec les armes de la chair, et lui ne prend pas les armes de la chair pour lutter contre eux. Et lui, même si physiquement, parfois, il a dû fuir pour sauver sa vie, il a toujours tenu ferme spirituellement de toutes les nouvelles qu'on a eues. Et puis, quelqu'un avait dit cette expression, il faut penser que ces gens ne sont pas l'ennemi, mais ils travaillent pour l'ennemi. Alors, ça donne aussi une perspective différente dans la manière de combattre l'action de ces gens, mais pas directement ces gens. Et puis, le premier ordre de ce passage, c'est « revêtez-vous ». Et puis, ça indique une notion de permanence. C'est trop tard d'essayer de vite mettre son armure quand on est déjà face au mauvais jour. L'important, c'est d'être habillé de son armure constamment et de savoir comment chaque pièce fonctionne et comment l'utiliser pour qu'au mauvais jour, on soit prêt pour tenir ferme. Alors maintenant, si on passe les six pièces de l'armure en revue, on a en premier la ceinture de vérité. Alors, j'ai regardé dans plusieurs commentaires, et puis il y avait des fois des choses un peu différentes en fonction de l'application. Alors, en premier lieu, j'ai essayé de regarder déjà le parallèle qu'on peut faire avec l'armure romaine, parce que c'était vraisemblablement à ça que l'apôtre pensait quand il a écrit. Alors la ceinture des légionnaires, elle servait à maintenir leur tunique en place pendant le combat. Ils avaient une tunique assez ample et un tissu assez épais, semble-t-il. Et puis, grâce à la ceinture, ça permettait qu'ils soient libres dans leurs mouvements et non gênés durant le combat. Et puis, sur le plan spirituel, on peut penser à, vu que c'est la ceinture de la vérité, et on a ce verset dans Jean 17:17, « Ta parole est la vérité ». Et ça parle de sanctification, ça peut être la sanctification dans la marche du croyant. Il y a aussi la sincérité de l'engagement, où finalement on ne se laisse pas distraire ni déranger par quoi que ce soit. Et puis le dévouement sans faille jusqu'à la victoire. Voilà pour la ceinture. Ensuite, on a la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'était ce qui recouvrait tout le tronc du corps, le tronc des légionnaires, il y a les parties vitales, notamment le cœur, les poumons. Et puis, au niveau spirituel, c'est probablement plus la justice pratique dans la marche quotidienne que la justice de Christ qui est imputée aux croyants, auquel ça peut nous faire penser. Il y a une citation qui disait « Quand un homme est revêtu de la justice et la met en pratique, il est invincible. Les paroles ne constituent pas une défense contre l'accusation, mais bien une vie intègre. » Et ça, on le voit dans le procès du Seigneur Jésus. Il a été accusé, faussement, et Il était parfait dans sa vie, dans toute sa vie. Aucune des accusations n'était justifiée et il n'a pas eu besoin de se justifier. Il n'a même pas ouvert la bouche pour chercher à se justifier. C'était évident que c'était des fausses accusations. Alors voilà un encouragement quand on vit dans la droiture. Tout ce dont on pourrait nous accuser finalement tombe à l'eau. Ensuite, les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Les sandales des légionnaires étaient munies de clous pour éviter qu'ils glissent durant le combat. Ça donnait de la stabilité finalement à tout le corps. Et puis, là notamment, j'ai trouvé trois applications qui sont complètement différentes, mais qui chacune ont moyen de nous édifier. Le premier ouvrage parlait de la paix avec Christ. Vu que nous sommes en paix avec Christ, on est libre de toute accusation. Un autre parlait de la paix avec les hommes, de vivre en paix les uns avec les autres, autant que cela est possible. Et un troisième ouvrage parlait de la diligence pour l'évangélisation, puisqu'il y a les pieds et l'évangile de paix, ça parle de la bonne nouvelle. Donc, plutôt que d'exclure deux applications au profit de la troisième, je pense qu'on peut se laisser édifier par ce que chacune apporte. Quatrième pièce, ce sera le bouclier de la foi. Alors, le bouclier des légionnaires, c'était un bouclier de grande dimension qui permettait de cacher tout le corps. Et ceux qui ont lu Astérix, ils ont peut-être encore vu la tortue des Romains, où finalement, avec les boucliers, ils arrivent à être complètement couverts en formation, lorsqu'ils sont en formation de tortue. Mais c'est une image de ce bouclier de la foi. C'est la confiance en Dieu. On a confiance en Dieu, en ses promesses, et grâce à ce grand bouclier de la foi, toutes les attaques, les mensonges et les tentations du diable sont anéantis. Et là, le verset d'Éphésiens parle « Les dards enflammés du méchant rebondissent dessus et n'atteignent pas le croyant. » On voit ces flèches qui arrivent quand les boucliers finalement rebondissent sans pouvoir atteindre celui qui est protégé derrière. Job, notamment, on a vraiment l'impression qu'il a su utiliser ce bouclier de la foi. Dans Job 1, versets 21 et 2, 10, il dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et puis au chapitre 2, « Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. » En tout cela, Job ne pêcha point de ses lèvres. Donc là, on voit vraiment Job qui, grâce au bouclier de la foi, grâce à sa confiance en Dieu, arrive à rester ferme. On a ensuite le casque du salut. Alors, en couvrant la tête, le casque protégeait la cible privilégiée durant un combat. Et puis, là aussi, Paul ne fait pas allusion à la manière d'acquérir le salut, puisqu'il s'adresse déjà à des croyants, mais à la certitude du croyant. La certitude du salut que chaque croyant doit avoir. C'est important parce que, avec cette certitude du salut, on a une assurance quant à l'issue finale du combat. Et aujourd'hui, on a facilement des enseignements, on entend facilement des enseignements qui disent qu'on pourrait perdre son salut. C'est quelque chose qui court pas mal dans ce qu'on peut entendre ou lire. Et puis, on peut se retrouver des fois face à des versets qui pourraient nous déstabiliser. Je pense peut-être Matthieu 23, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Est-ce que celui qui ne persévère pas perd son salut ? Hébreux 6, versets 4 à 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. » Donc, c'est des versets qui sont cités hors contexte et puis qui pourraient déstabiliser quelqu'un. Alors, si on est déstabilisé par ces versets, c'est peut-être que le casque du salut n'est pas bien ajusté, peut-être qu'il faudrait resserrer la lanière qu'il fait tenir en place. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut reprendre la parole, il faut réétudier ces passages pour arriver à la conviction que le salut ne se perd pas. Et puis, on pourrait dire encore que des arguments tels que « c'est ce qu'on m'a toujours enseigné » ou bien « il y a un autre verset qui dit le contraire », c'est pas valable parce que la Bible est complète, elle ne se contredit pas. Et puis, c'est bien de savoir qu'on enseigne quelque chose, mais il faut arriver personnellement à des convictions qui nous permettent de tenir ferme. C'est cela que nous permet d'avoir le casque du salut. Puis alors, avec le bouclier et le casque, on peut dire qu'ils sont complémentaires. Le bouclier, il nous protège par le rappel de ce que Dieu est. C'est les promesses de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Et le casque nous protège par le rappel de ce que Dieu a fait. C'est le salut final que l'on obtient en Christ. Ensuite, on a l'épée de l'esprit. Donc, c'est la première et la seule partie de l'armure qui a aussi une fonction, enfin, qui n'a pas seulement une fonction défensive. Elle permet de se défendre. On voit ça notamment avec le Seigneur qui manie l'épée de l'esprit contre Satan lors de la tentation dans le désert. Et puis, grâce à elle, il a pu repousser les attaques de Satan et finalement, Satan le laisse. Et puis, cette épée, elle a une qualité. supérieur à une épée à deux tranchants. On le voit dans Hébreux 4, verset 12. Alors, qu'est-ce qui fait que cette épée de l'esprit, elle a une pareille efficacité? Eh bien, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce n'est pas l'épée du soldat, ce n'est pas l'épée du chrétien, c'est l'épée de l'esprit. Sa puissance, elle vient du fait que c'est l'esprit qui la manie. Il la manie de manière appropriée, au moment convenable, dans un contexte, et puis, donc, c'est l'esprit qui donne cette puissance à l'épée. Le contre-exemple extrême, finalement, c'est quand Satan a utilisé la parole contre Christ dans le désert. Il l'a mal cité, il l'a cité hors contexte, de manière incomplète, et la parole n'a eu aucune efficacité. Donc c'est un exemple extrême, mais c'est pour montrer que c'est vraiment sous la direction de l'esprit que l'épée est efficace et puissante. Ce qu'on peut souligner aussi à la fin de cette petite liste, c'est que toutes ces pièces, finalement, de l'armure, elles ont leur source dans la parole de Dieu. On a vu que la première pièce, c'était la ceinture de la vérité, et le verset dans Jean 17, ta parole est la vérité, c'est la parole qui est source de vérité. Donc, pour la cuirasse de la justice, en 2 Timothée 3,16, on lit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire dans la justice. Cette justice pratique nous est enseignée par l'écriture. Et c'est une instruction, ça veut dire qu'il y a un processus d'apprentissage. Il ne faut pas croire qu'on va mettre cette cuirasse et qu'automatiquement elle va être efficace. Non, il y a un processus d'apprentissage et jusqu'à ce que cette cuirasse de la justice puisse être efficace pour défendre un croyant, pour la protection du croyant. L'évangile de paix pour chaussures, en Éphésiens 2, on voit que Christ est venu et il a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. Et ça, c'est Christ, la parole de Dieu, qui l'a fait. En Romains 17, on voit que la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Voilà, pour le bouclier de la foi. En Romains, dans le contexte, il parle de la foi qui sauve, mais certainement que la foi qui est la confiance en Dieu a aussi sa source dans la parole de Dieu. Pour le casque du salut, eh bien, voilà, on l'a dit, si on a des doutes quant à l'assurance du salut, on peut aller nulle part de mieux que dans la parole pour réfuter ses doutes et pour acquérir une assurance. Et puis le dernier point, l'épée de l'esprit est la parole de Dieu, c'est la parole personnifiée. Donc, on voit que toutes ces pièces de l'armure ont leur source dans la parole de Dieu. Et alors, j'ai pensé à un exemple particulièrement parlant qu'on a vu ces derniers temps, en tout cas à l'Assemblée de Balègue, par rapport à des croyants qui ont eu cette armure a été mise particulièrement a été particulièrement sollicitée, c'est la famille Paquin. Et on a vu qu'ils ont eu, donc peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont attendu un enfant et puis après 3 mois de grossesse, ils ont appris que l'enfant ne pourrait pas vivre parce qu'il n'avait pas de boîte crânienne. Et puis, ce que tout le corps médical leur a incité à faire, c'était d'avorter. Et puis, ils ont refusé. Et puis, cet enfant est, semble-t-il, né mercredi et a vécu 4 heures avant de s'éteindre. Eh bien, et c'était la deuxième fois qu'ils vivaient cette expérience. Et on peut voir que, premièrement, ils ont été attachés à la vérité de la parole de Dieu et au respect de la vie que Dieu met dans sa parole. Et puis, ils s'y sont soumis contre l'avis du corps médical. Et là, on peut voir vraiment une marche dans la justice. Et puis, dans les nouvelles qu'ils nous ont données tout au long des mois, ils ont vraiment dit qu'ils avaient à cœur, dans cette épreuve, qu'il y ait un témoignage dans l'hôpital, parmi leurs connaissances, il y a un témoignage chrétien qui soit donné. Et puis, pour persévérer durant ces mois, eh bien, il y a certainement 3 choses qui les ont particulièrement soutenues. C'est leur confiance en Dieu et en ses promesses. Le salut en Jésus-Christ, ils étaient assurés de l'issue finale de l'épreuve. Et puis, la 3e chose pour laquelle ils donnaient des nouvelles, c'est les prières, les leurs, bien sûr, mais aussi celles qu'ils demandaient aux frères et sœurs. Et ce point nous amène au dernier. C'est plus une pièce de l'armure, mais c'est le dernier point d'Éphésiens 6, et c'est la prière. Prions par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi. Alors la prière, ici, c'est vrai qu'elle n'est pas mentionnée comme une pièce de l'armure qu'on pourrait dessiner sur le soldat, mais elle semble plutôt être l'ambiance dans laquelle le soldat vit pendant les combats et entre les combats. L'apôtre souligne 4 points quant à cette prière. Elle doit être continue, il dit en tout temps. Elle doit être variée, il peut y avoir des prières, des supplications. On pourrait citer des actions de grâce, des prières de remerciement, des prières d'adoration. La prière est persévérante et la prière est pour chacun des croyants et pour lui-même. Elle s'adresse à tous. Et alors, quel est le sujet de prière que l'apôtre demande ici expressément? C'est qu'il ait la sagesse. Donc pour lui-même, il demande qu'il ait la sagesse et la hardiesse pour donner à connaître les mystères de l'Évangile. Dans ce combat spirituel, il est particulièrement présent quand il y a l'annonce de l'Évangile. Et là, c'est bien facile à comprendre que Satan ne va pas laisser piller les âmes qu'il a sous sa coupe par l'évangélisation pour que les gens soient sauvés. Il y a aussi ce qu'on peut remarquer dans ce passage d'Éphésiens, c'est qu'on a des verbes à l'impératif, prenez et tenez ferme. Et ensuite, à part prenez aussi le casque du salut, toutes les pièces de l'armure sont indiquées par un participe. On a appris à Biblos que cela donnait une information complémentaire sur le premier ordre qui est prenez l'armure complète de Dieu. Et puis, cette exhortation, elle est au présent. Il ne dit pas tenez l'armure bien prête dans un coin, puis comme ça, quand vous en aurez besoin, pour éviter l'enfiler. Non, il dit prenez-la, et puis quand vous en aurez besoin, elle, vous saurez déjà l'utiliser, et vous l'aurez déjà sur vous. Là aussi, on a un contre-exemple avec David et Goliath. Quand David est parti affronter Goliath, il ne savait pas utiliser une armure. Il a essayé l'armure de Saül et il ne savait pas l'utiliser. Et il n'a pas commis l'erreur de la prendre. Ça ne sert à rien de prendre des armes dont on ne sait pas se servir. Et par contre, David, lui, on voit bien qu'il était revêtu de l'armure spirituelle. Par rapport à la ceinture de vérité, il avait un engagement sans faille pour Dieu et il ne supportait aucune atteinte à sa gloire. Dans 1 Samuel 17, il dit, ton serviteur a frappé le lion et l'ours et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Il ne supportait pas qu'on porte atteinte à la gloire de Dieu. Il avait une vie de la justice, il était soumis à son père, il a eu une bonne attitude face à son frère qui l'accusait injustement. Et puis, il a respecté le roi Saül en tant que roi, finalement, même si Saül ne l'a pas mérité. Chaussé de l'évangile de paix, il a été engagé pour le témoignage. Pourquoi est-ce qu'il a combattu Goliath? Il dit, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Il y a eu un témoignage public de la puissance de Dieu. Le casque du salut, il n'a eu aucun doute sur l'issue du combat. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi. Et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et puis, grâce au bouclier de la foi, les menaces de Goliath n'ont même pas effleuré. Quand Goliath lui a dit, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. Ça devait être impressionnant, mais David, c'est comme s'il ne l'avait pas entendu. Et puis, par rapport à la prière, eh bien, on connaît la vie de prière de David par les psaumes. Et puis, j'ose imaginer que les Israélites priaient aussi que David courait contre Goliath. Voilà. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que cette armure spirituelle, David, il ne l'a pas enfilée juste avant de partir contre Goliath. Il a fait son école de recrue spirituelle en gardant les troupeaux de son père, en battant le lion et l'ours. Et là aussi, pour nous, on a... Comme j'ai dit avant, l'armure, on doit l'avoir sur soi et être capable de s'en servir avant que les mauvais jours arrivent. Alors voilà, une conclusion. Je pense que ce soir, on a pu voir 3 domaines où il y a un combat spirituel à mener pour les croyants. Et dans ces 3 domaines, il y a un but humain et un but ultime. Le premier domaine, c'est avec Job. Dans la souffrance, il y a un combat spirituel à mener. Et le but humain, on peut dire, c'est tenir ferme dans sa confiance envers Dieu, comme Job a su le faire. Puis le but ultime, c'est la gloire de Dieu, parce qu'on voit que finalement, c'est ce que Satan cherchait à faire, c'était ternir la gloire de Dieu. Et Job, en tenant ferme dans sa confiance, il a glorifié Dieu. Deuxième but, un deuxième domaine, c'est le Seigneur avec la tentation dans le désert. Et pour nous, ça représente, c'est le combat contre le péché, où Satan tente les croyants à pécher. Le but humain de ce combat, c'est de tenir ferme dans l'obéissance à Dieu. Et le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Chaque fois qu'un croyant pêche, la gloire de Dieu est, on peut dire, ternie. Et chaque fois qu'un croyant résiste au péché, Dieu est glorifié. Et puis, avec les Éphésiens, il y a l'avancement de l'Évangile pour lequel Paul priait. Et là, le but humain, c'est d'amener des non-croyants au pied de la croix, de les amener au Seigneur. Et le but de Dieu, c'est de sauver des âmes, et c'est à travers ça d'être glorifié. Donc voilà, je pense, trois domaines où il y a un combat spirituel à mener, trois combats où Satan ou les puissances des ténèbres peuvent attaquer les croyants, et trois combats où les croyants ont à résister, tenir ferme et donner gloire à Dieu. Peut-être que je n'ai pas mentionné ce soir le premier point auquel vous auriez pensé en fonction du titre de cette réunion. Et on pense au combat spirituel contre les démons, l'exorcisme. Alors, à ce sujet, il y a peut-être deux dangers. C'est d'une part les gens qui réfutent l'existence des démons, qui pensent que ça n'existe pas. J'ai entendu que ça, c'était un problème uniquement occidental, parce que dans les autres parties du monde, les gens ne se posent pas la question. Pour eux, les démons, c'est quelque chose avec lequel ils ont affaire suivant quotidiennement. Et puis le deuxième danger, c'est de voir des démons partout. Et j'ai entendu des gens qui, lors de conflits de personnes, où chacun défend son intérêt, on accuse l'autre, qu'il y a des démons qui manipulent l'autre. Alors je pense qu'il faut aussi être prudent à ce niveau-là. Alors si on est confronté à des démons, et ça peut arriver, il y a des enseignements dans les évangiles, dans les actes des apôtres, que le Seigneur a donné, des exemples aussi. Et puis, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour donner des enseignements à ce sujet. Et puis, la raison pour laquelle je n'ai pas traité cela également, c'est qu'il me semble qu'on est beaucoup plus confronté à ces trois points qui sont affichés à l'écran qu'aux démons. Et on a déjà pas mal de travail à faire avec ces domaines-là. Alors voilà ce que je voulais apporter ce soir.